Je me souviens plus jeune d'avoir cherché la lumière littéralement, dans le sens où je passais des heures à 18 ans à apprendre par cœur le lexique de la lumière en anglais. Parce qu'il y a tellement de mots dans cette langue pour en dire le moindre jeu. C'est fascinant. Je me souviens des mots du scintillement. Glitter pour une robe à paillettes. Sparkle pour un feu d'artifice. Twinkle pour une petite étoile. Mais aussi glow quand elle rougeoie la lumière. Gleam quand elle se teinte de bleu. Glisten quand elle reflète sur l'eau. Glitter quand elle est faite de petites touches qui éblouissent, ou encore glare quand elle est tellement forte qu'elle vous fait mal. Il y en avait des centaines comme ça. Et vous savez ce qui se passe dans ce cas-là? C'est le secret des linguistes. À force de mettre des mots, on prête de plus en plus attention. On devient sensible à la lumière. On la traque un peu partout pour en saisir les infinies variations. Des lumières que je retiens quand je ferme les yeux ce matin. Il y a celle écrasante de midi qui crame tout sur son passage, qui durcit les traits, qui produit des ombres toujours plus sombres. Celle en contre-jour des arbres qui se découpent dans le ciel. Celle des heures dorées en fin d'après-midi ou en début de matinée. Celle de ma table de nuit qui est trop faible et qui m'esquinte les yeux. Celle des heures bleues quelques minutes avant le lever du soleil ou juste après qu'il s'est couché. Celle du vert luisant dans l'herbe d'Auvergne l'été. Celle des studios de télé. Et puis celle si belle de Joachim Trier dans son film Oslo, 31 août.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui sublime la lumière. Il y a 15 ans, son premier film Nouvelle Donne faisait souffler un vent de renouveau sur le cinéma norvégien et européen. En France, il avait triomphé avec Oslo 31 août, Variation sur le feu follet de Pierre Drieu-La Rochelle, qui est un des plus beaux films qui soit. Julie en 12 chapitres, présenté cette année en compétition au Festival de Cannes, a valu à son actrice Renate Reinsveu le prix d'interprétation féminine. C'est l'histoire d'une trentenaire qui se cherche sur tous les plans, et c'est absolument renversant. Bonjour Joachim Trier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avant toute chose, en quoi faire du cinéma, c'est toujours chercher la lumière?
Voilà un splendide point de vue pour parler de cinéma. Sans lumière, pas d'image. Sans image, pas de cinéma. C'est complètement logique. Quand j'étais enfant, j'ai fait des films avant de savoir écrire. J'ai grandi chez des cinéastes. Mon grand-père était cinéaste, mais mes deux parents étaient dans le métier. Et j'ai reçu des caméras Super 8 et même plus tard des caméras vidéo. Et j'essayais de tenter de montrer aux gens des ambiances, des humeurs. Et je ne les comprenais pas. L'émotion d'une scène, elle tient à deux choses. À la lumière, à l'espace et aux êtres humains.
Alors la lumière d'une ville comme Oslo, par exemple, omniprésente dans Julie en 12 chapitres, qu'est-ce qui la caractérise?
Puisqu'Oslo est une des capitales européennes le plus au nord, on a de la lumière la nuit en été. La nuit ne tourne jamais l'été. C'est un sentiment transitionnel permanent. Et quelque part là, l'obscurité n'arrive jamais. Et la lumière transitionnelle, tout le monde aime ça. Terrence Malick, les gens cherchent cette lumière transitionnelle. C'est comme si elle est pleine de drames. Elle raconte une histoire.
Quand est-ce que la lumière est la plus belle à Oslo?
Late summer.
À la fin de l'été, en août. Je dirais le 31 août, vers 7h du soir.
C'est intéressant, parce que cette ville, Joachim Trier, ça fait 15 ans que vous la filmez, que vous la documentez, elle est dans presque tous vos films. Représenter cette ville, la vôtre, hein, dans votre cinéma, quel sens est-ce que ça a pour vous?
Les gens me posent des questions sociologiques sur ma ville. Comment est-ce qu'elle a changé? Quels sont les quartiers à la mode? L'architecture qui est nouvelle? Pour être très sincère, Oslo, c'est mon matériau. Je la regarde et c'est une toile que j'utilise pour créer des images. Mais je ne l'analyse pas. C'est très intuitif.
Mais qu'est-ce qui en fait une ville de cinéma pour autant?
J'ai fait un documentaire sur Edouard Munch il y a quelques années. Et Munch, il avait un endroit, Oskarstrand, où il passait ses étés enfant. Il a peint toute sa vie, toutes ses tragédies, comme si c'était une scène qui s'était passée dans le même endroit. Et ces événements, parfois tristes, n'ont pas tous eu lieu là. Et bon, Oslo pour moi, bon, je ne veux pas être prétentieux, je ne suis pas Munch, mais Oslo pour moi, c'est une scène sur laquelle je peux trouver des équivalents émotionnel. Une rue, elle aura tel sentiment pour moi, et l'autre, un autre sentiment.
Je pense pense par exemple à une scène où Julie quitte son appartement et traverse la ville pour rejoindre le garçon dont elle est tombée amoureuse. Autour d'elle, tout s'est figé. Les passants, la circulation, c'est presque une scène de comédie musicale avec Oslo pour décor.
C'est une idée toute simple. On a tous vécu ça, on a vu que le temps passe vite. Et même si on est avec quelqu'un que l'on aime, mais on se dit « Ah, j'aimerais arrêter le temps, retenir le temps, et puis fuir dans un univers parallèle. » Et d'avoir une histoire avec quelqu'un d'autre, juste pour comparer, pour voir ce que c'est que la vie, de ce que c'est que le temps. Et c'est là l'idée. C'est difficile comme ça de le mettre en mots, mais il s'agissait effectivement que ce soit drôle et musical.
Mais c'est aussi un hommage à un certain type de cinéma. Quelles images de cinéma est-ce que vous aviez en tête quand vous l'avez pensé à cette grande scène de traversée ?
Je voulais que ce film soit comme une comédie musicale. Je ne voulais pas que cette scène très compliquée, avec beaucoup de gens immobiles, et qu'elle devienne technologique, digitale, froide. En fait, j'ai cherché quelque chose comme la folle journée de Ferris Bueller, là où tout Chicago danse autour de Ferris, comme si tout Oslo, même s'ils ne dansent pas, ils sont immobiles, est témoin de l'expérience de l'amour.
C'est passionnant parce que vous en faites, Joachim Trier, une scène de fantasme. À quel fantasme êtes-vous parvenu à donner vie, vous, grâce au cinéma?
Je m'identifie beaucoup au personnage de Julie. C'est une rêveuse. Elle ne sait pas comment faire et comment faire que son imagination devienne réalité. Étrangement, c'est quelque chose qui est comme moi. Je suis un rêveur. J'ai envie de faire des choses qui sont impossibles. Dans la vie, parfois, c'est pas trop facile, mais au cinéma, c'est possible.
C'est vrai qu'il est tellement question de fantasmes dans ce film, de l'écart entre la vie telle qu'on se l'imagine et de la vie telle qu'on la vit. Julie, elle se rêve d'abord chirurgienne, puis psychologue, puis photographe ou écrivain. Mais au fond, elle sait pas vraiment ce qu'elle veut ou ce pourquoi elle est faite. Quand est-ce que vous, vous avez compris que vous étiez fait pour le cinéma ?
C'était bizarre. J'ai toujours fait du cinéma quand j'étais môme. Et puis j'étais champion de Norvège de skateboard. J'ai fait du breakdance, du hip-hop, j'étais dans un groupe punk. J'ai tout fait ça, mais à 18-19 ans, j'ai fait mon coming out de réalisateur. J'ai dit à mes potes, je crois, les mecs, que je vais essayer de faire du cinéma.
C'est un terrible coming out.
Et puis mes copains m'ont dit, comme dans tous les coming out, ils ont dit, mais on le savait. On pense pas que t'es bête. Et on s'est... C'est pas bête, vas-y.
Mais pourquoi le cinéma ? Pour mieux vous tourner vers les autres aussi ?
Bien sûr. La plupart de mes films, ils parlent de l'isolement, de la solitude face à un groupe. Et moi, j'ai toujours envie de faire partie d'un groupe. J'ai envie de collaboration, j'ai envie de trouver ma place parmi les gens. Et parfois, ça a été difficile, mais parfois, ça a été une joie. Au cinéma, on ressent ce que c'est qu'une troupe. Et que c'est l'essence du processus de création. Je suis pas un auteur dans mon coin ou un peintre qui veut être tout seul. Non. J'ai besoin des gens, de sentir leur force m'aider à créer.
Ça veut dire que vos premiers films, même très jeunes, c'était la documentation de ces amis skateurs, par exemple?
Quand je y repense, maintenant que j'ai pris de l'âge, j'ai toujours été obsédé par la mémoire. Je me rappelle, j'étais sur un tricycle quand j'avais 5 ans. C'est mon premier souvenir. Et je me suis dit, ce moment, je m'en rappellerai toute ma vie. Et ça m'obsède. Et je me suis rendu compte de la mortalité des choses. Les choses finissent. Et puis, puisqu'on peut se rappeler, on peut oublier. Puisqu'on est, on peut ne pas être. C'est très dur. Quand j'étais enfant, j'étais obsédé par des photos, des souvenirs. Je voulais que les choses durent. J'avais ce sentiment de temps qui était très furtif. C'était bizarre, mais compliqué aussi pour moi. Et je suis toujours comme ça.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes derrière votre caméra au moment de dire action, Joachim Trier?
Je me sens présent au monde, que je ne ressens pas quand je fais d'autres choses. Je suis un ancien skateur, je me suis cassé jambes et bras, j'ai sauté depuis des toits, j'ai pris des risques, parce qu'il me tardait d'être dans l'instant. Au cinéma, on a ce sens de la présence, et il n'y a rien d'autre au monde qui compte, et de trouver la bonne prise avec un comédien. Je regarde Renate Reinsvey ou Anders Danielsen-Lee, et je me dis, je me fonds en eux, je deviens 13 ans, je suis à côté de la caméra, je ne regarde pas le moniteur, et là je regarde le visage. Rien d'autre à l'esprit, c'est très zen, très dans le présent.
Vous savez qu'il y en a une qui n'est pas zen dans cette émission, vous la connaissez sans doute, Joachim, c'est évidemment la culture et son actualité complètement à l'ouest. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 15 octobre ?
À ceux qui n'en ont pas.
Alors on redanse. Après plusieurs années de silence, le chanteur belge Stromae a dévoilé ce matin Santé, un morceau inédit, premier extrait de son troisième album très attendu. Articulé autour de rythmes latino et d'un refrain entêtant, la chanson rend hommage aux anonymes et travailleurs de l'ombre. Stromae, qui sera à l'affiche de Rock en scène en août prochain, devrait sortir l'intégralité de l'opus cet hiver, avant de lancer une grande tournée amorcée avec Coachella en avril. Santé.
Tell the stories you were told to the world on screen.
Et action. L'UNESCO et Netflix ont annoncé hier s'être associés pour soutenir la nouvelle génération de cinéastes africains. Ensemble, ils organisent un grand concours de courts-métrages sur le thème des contes populaires d'Afrique réinventés. Les lauréats, au nombre de 6, verront leurs projets financés puis diffusés sur la plateforme de streaming. Pour participer, il faut être âgé de 18 à 35 ans, vivre et être originaire d'un pays subsaharien et avoir entre 2 et 5 ans d'expérience dans l'audiovisuel. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 14 novembre.
Ma démarche, enfin... chancelante et obstinée, elle est une façon de maintenir le cap malgré les effacements, les trous de mémoire.
Sixou, le charme, la grande femme de lettres. Hélène Cixous a reçu mercredi le très prestigieux prix de la BNF pour l'ensemble de son œuvre. Elle rejoint des écrivains comme Virginie Despentes, Mona Ozouf, Emmanuel Carrère ou encore Milan Kundera. Pionnière des études de genre en France, penseuse du féminisme, Hélène Cixous est l'autrice d'une œuvre dense et puissante qui mêle l'intime et l'engagement, la pensée poétique, la recherche esthétique. Début octobre, elle a fait paraître Rêvoir, tout à la fois ode et réflexion sur la liberté, dont elle était venue la semaine passée nous parler à ce micro. Yo.
Il n'y a pas de grande architecture sans passion.
Et c'est parti pour un week-end archi. Jusqu'à dimanche, la 6e édition des Journées Nationales de l'Architecture se déploie dans toute la France autour du thème « Au combien d'actualité du vivre ensemble ?» Au programme visites de bâtiments, balades urbaines, expositions, projections de films, des centaines de manifestations pour initier le grand public à la discipline architecturale. À Marseille, par exemple, on pourra notamment emmener petits et grands à la Compagnie des rêves urbains pour découvrir les métiers de la construction à travers des jeux et des ateliers prélogiques. C'est chic. Le cinéaste norvégien Joachim Trier, invité de Boomerang ce matin pour son film Julie en 12 chapitres, qui a valu à votre comédienne le prix d'interprétation lors du dernier festival de Cannes. Qu'est-ce qui fait une grande interprétation pour vous ?
Le mélange de longue préparation, de courage, avec la vulnérabilité, la spontanéité. C'est beaucoup, hein. Et Renate, c'est quelqu'un qui a le grand courage. Elle montre son émotionnalité. Elle n'a aucune honte, pour ainsi dire. Et c'est très difficile à imiter.
Oui, et puis on va pas se mentir quand même, c'est aussi le personnage qu'on propose à la comédienne ou au comédien. Parce que là, vous faites le modeste, Joachim Trier. Qu'est-ce que c'est un bon personnage ?
J'ai écrit ce rôle avec Eskil Vogt, mon co-scénariste, pour Renate. Je la connaissais. Et nous savions où nous allions à la fin. Un visage dans lequel nous croyons une comédienne. Et ce visage, il est multiple, il est complexe. Le problème avec l'écriture, c'est que les gens vous demandent d'être explicatif, de dire, bon, ce personnage, il faut qu'il lui arrive ceci, donc il faut qu'il fasse ça. Et bon, quand vous vivez avec des gens, les gens, ils font pas exactement comme c'est écrit. Les moments spécifiques sont ceux qui créent un personnage.
Ce qui implique un conflit intérieur pour le personnage.
Absolutely. Tout à fait. Mais aussi, j'utilise la langue du cinéma pour entrer dans l'esprit et la pensée.
Alors justement, comment on fait en tant que cinéaste pour rendre visible l'attention, les contradictions, les conflits internes d'un personnage sans en faire trop, sans jamais être trop explicite? Pour laisser quand même au spectateur un espace de liberté, Joachim Trier.
Là, vous me posez la question essentielle de ce que nous essayons de faire au cinéma. Je me souviens, Isabelle Huppert, qui a joué dans Back Home, toujours elle était très intéressée par la préparation, la compréhension, mais elle m'a dit, dans l'instant, il faut que le mystère entre en jeu. Ce mystère est une invitation pour le public, pour qu'il entre dans le personnage et qu'il s'identifie. Si on nous explique tout. On nous retire toute curiosité et toute passion. J'ai appris beaucoup d'elle et ça correspond tout à fait à ma perception de l'art. On vit dans un monde avec beaucoup d'opinions, beaucoup de polémiques. L'art est un espace qui doit être ouvert pour que les gens puissent s'y sentir bienvenus et que tout le monde n'a pas à avoir la même opinion. On peut aller au cinéma et puis rentrer à la maison. Si vous voulez en parler à un ami, c'est bien. Mais si vous voulez en discuter seul à seul avec vous-même, c'est bien aussi. C'est ça l'espace que je veux créer. Ambivalent.
Alors dans ce film, Julie, en 12 chapitres, Joachim Trier, le conflit intérieur qui anime Julie, ça va être le moteur de ce qui ressemble à certains égards à une comédie romantique. Ce genre que vous n'aviez jamais approché auparavant, qu'est-ce qu'il vous évoque tout de suite? Quelles images de cinéma? Quelles grandes scènes?
J'ai pas mal regardé ces films de contrebande d'Hollywood dans les années 30 et 40. George Cukor, Philadelphia Story. Ça semble être comme un alcool ou un dessert sucré. Mais si vous regardez plus précisément, c'est un récit existentiel sur les compromis que nous devons faire pour nous rapprocher des autres. C'est vraiment existentiel. La limite des choix. Et donc, dans ces comédies romantiques, il y a aussi, comme Annie Hall, par exemple, ou même Coup de cœur à Notting Hill. C'est un film sur l'idéalisation, sur la réalité qui n'est pas toujours compatible avec l'amour. Mais je dois dire que mon film, il est quand même plus dramatique. Je viens de Scandinavie. J'ai grandi chez Bergman, donc j'ai tout raté. Si les gens viennent voir quelque chose d'amour, de sucré, désolé, c'est un peu plus sérieux.
Mais pas du tout, parce que je crois que c'est ce qui est si beau dans le film, c'est que vous allez puiser dans la comédie romantique une certaine légèreté. Et je me pose la question dans quelle mesure le cinéma a ce pouvoir-là, celui de rendre le spectateur plus léger.
On parlait de Oslo 31 août, et j'étais à ce moment-là, à un moment où j'avais besoin de créer quelque chose de sincère sur la dépression sentimentale. Ça peut faire du bien. Mais là, depuis 10 ans, je me sens plus humble grâce à la force de l'espoir. Il y a de l'espoir, il y a de la légèreté dans ce que je fais et que je veux partager. Je veux espérer que je ne vais pas perdre l'intensité et l'importance de mon propos. C'est plutôt le contraire et ça peut être positif.
Et la mélancolie est toujours là quand même. Qu'est-ce qui vous rend mélancolique?
C'est ce qu'on disait.
Le passage du temps.
Et puis tout est tellement fugace. C'est un claquement de doigts. C'est drôle. J'aime les gens. Des fois, ça se passe pas très bien, mais le temps, ça va si vite. Et dans notre culture, on n'en parle pas de la mort, parce qu'on vit dans une société consumériste qui utilise toute sa force pour tenter d'éviter les questions, le temps, l'âge. Et je le sens dans mon cœur. Je le vois autour de moi. Je vois les gens qui partent. Naturellement, on peut essayer de parler parce que c'est notre propos, mais en même temps. Tout va si vite.
Pour vous, c'est le cap de la trentaine. On le voit dans Julie en 12 chapitres, on le voit aussi dans Oslo 31 août d'ailleurs, parce qu'on commence à oublier, vous le disiez. Oublier quoi?
To be honest with you, I haven't forgotten.
Mais moi, j'ai pas tant oublié que ça. Et c'est mal, ça fait mal. J'ai une bonne mémoire. Beaucoup de gens autour de moi ont commencé à m'en parler depuis qu'ils ont des enfants. Et qu'ils transposent leur poids de leur propre identité. Et ça devient quelque chose de plus fugace, comme une libération. C'est une libération d'avoir un enfant, je pense. On commence à se rappeler quelqu'un d'autre et on le transpose cette identité sur quelqu'un d'autre, ce qui peut être libérateur. Et puis, on oublie ces grandes citations de la littérature, tout ce qui nous a nourris, qui nous a construit quand on avait 25 ans. On lit des choses comme ça, on veut impressionner une fille ou un garçon et on lui dit « je vais te citer Bataille et Kierkegaard ». Et vous avez 30 ans et là, la vie est pleine. Et vous voyez bien que tout ce qui vous constituait Ça n'est plus vous. Il a fallu abandonner ça et c'est une expérience terrible.
Mais de là découle un projet de cinéma absolument magnifique. Joachim Trier, comment fait-on pour créer une image de cinéma qui restera, une image que l'on n'oubliera pas?
C'est
très important. Et moi, j'achète à fond, je voudrais que ça arrive. Mais on ne peut jamais savoir. Mais je crois aux choses spécifiques. La lumière, d'ailleurs.
Mais la lumière crée aussi de la beauté. Joachim Trier, quel enjeu est-ce que c'est pour vous la beauté d'une image de cinéma? Vous qui êtes né au Danemark, pays du dogme 95 porté par Thomas Vinterberg et Lars von Trier, qui est, je crois, un de vos parents éloignés d'ailleurs, et qui prenait un certain dépouillement sur le plan esthétique.
Personnellement, je tourne en 35 mm. Ce qui m'intéresse, c'est le visage humain, l'émotion, la beauté, les images. Ce qui m'intéresse, c'est la caméra, ce qu'elle trouve, plus que ce qu'ils faisaient, eux, dans les années 90.
On va reparler de beauté, d'image et de temps juste après cette énergie qui résonne dans votre film. Christopher Cross, Ride Like the Wind en 1979. Vous êtes sur France Inter avec Joachim Trier. Vous écoutez Boomerang, évidemment. Alors c'est-à-dire qu'il y a la rousseur, puis il y a le poil court aussi. Hein. Il a le sourire ravageur, Werther's original, l'œil bleu lagon derrière des petites lunettes, le format viking. On lui donnerait le bon Dieu sans confession, mais on sent quand même le passé Larry Clark et le passé DJ Jojo, avec son pantalon qui ressemble à un jogging et son sweatshirt Paris Review. C'est un petit peu ça. Le cinéaste norvégien Joachim Trier, invité de Boomerang ce matin pour Julie en 12 chapitres, son 5e long métrage actuellement au cinéma. L'histoire d'une jeune femme de 30 ans, on le disait, qui se cherche, qui essaye, qui se trompe, qui recommence, qui expérimente. Et je me suis demandé dans quelle mesure, pour vous aussi, faire un film, c'est toujours ça. C'est toujours constamment expérimenter.
C'est paradoxal. J'ai cet ethos avec lequel je dois vivre. Et je dis toujours à mon équipe, avant qu'on commence, la chance sourit à ceux qui sont préparés. Et si vous vous préparez bien, vous pouvez avoir de la chance. Et je dis la même chose aux comédiens. Je passe beaucoup de temps avec eux, et beaucoup d'argent en fait, sur le plateau, pour répéter, pour essayer des choses. Mais le jour dit, on se lâche, on se lance, on change d'avis, et on propose.
Et alors au fond, qu'est-ce que vous avez l'impression de contrôler quand vous faites un film?
Mon intention, elle est dans le script.
Les mots.
Yes, And then, it's oui, not about the dialogue,
mais
but
pas vraiment le dialogue, il y a l'intention surtout de la scène, ce qu'elle doit vouloir dire dans l'ensemble. Je m'y perds complètement avec les acteurs et je dois toujours penser cependant à l'ensemble. On a envie d'être ouvert, mais on ne veut pas être vague. Il faut de l'énergie dans chaque scène. L'énergie, c'est de la mise en scène. C'est la façon de tourner, le mouvement, les acteurs, mais aussi la structure émotionnelle de la scène.
Et c'est intéressant, les mots dans votre cinéma, Joachim Trier, quels sont ces skills ont ?
La plus grande forme d'art, c'est le roman. C'est très moderne, le roman. Ça n'a que 200 ans. Les gens pensent que le roman a toujours existé. L'idée du roman, c'est quoi ? C'est la libre structure de la pensée dans un certain nombre de pages, avec une histoire humaine, mais ça peut être une biographie, ça peut être un documentaire, ça peut être de la fiction totale, ça peut être de la poésie. La liberté de la forme. C'est pas que j'ai envie de faire un roman, mais je veux cette liberté-là, comme la liberté du jazz. C'est ça qui m'inspire. Parce que le cinéma, il tombe maintenant dans les algorithmes. Si jamais vous voulez faire une série télé, il faut un cliffhanger, il faut 3 minutes et puis hop, il faut accrocher les gens. Merde, lâchez-moi un peu, laissez-moi respirer, je veux jouer ma musique comme je la veux. Je veux m'exprimer.
Justement, pourquoi on a besoin de mots ?
Dans les relations humaines, c'est une des rares façons de se livrer à l'autre. Mais moi, j'aime bien cette distinction qu'il y a en France. Je ne veux pas faire l'intellectuel. Entre la langue et la parole. Le cinéma est une langue alternative, avec aussi des mots.
Mais parfois, les mots, ce n'est pas suffisant.
I hope so.
J'espère bien.
I wouldn't be making movies.
Je ne ferais pas de film si je pouvais tout dire avec des mots. Mais il manque quelque chose, j'ai tellement de brisures dans ma vie, j'ai besoin d'images. Et puis, dans notre esprit, les images, elles peuvent être moins claires que les mots, ce qui donne de la liberté, parfois.
Et puis aussi, je pense à l'un de vos personnages qui est auteur de BD, qui passe son temps à nommer, à analyser, à mettre des mots sur des sentiments, des émotions, et ça l'aide pas forcément. Dans quelle mesure le pouvoir des mots est-il limité pour vous ?
On se piège dans les définitions. Et dans les relations humaines, il faut toujours nommer, avoir raison. Alors que parfois, être avec quelqu'un, c'est apprendre aussi. J'ai de l'expérience en amour. Julie dit quelque chose de très très important. Le pouvoir est si important pour toi. Tu penses analyser les choses parce que tu peux mettre des mots et tu penses que tu as du pouvoir comme ça.
Oui.
Et moi, je n'ai pas ce pouvoir, dit-elle. Et tu me trouves faible. Et je ne suis pas d'accord. Et là, elle a raison. Dans ce film, j'essaie de me réconcilier. Moi, en tant qu'homme, de ma génération, quelqu'un qui a cru qu'il fallait grandir, être bon avec les gens, avoir des valeurs. Et je me rends compte que ça a aussi des limites.
Puis ce que vous dites aussi, quand même, c'est que le cinéma a le pouvoir de montrer ce qui ne peut pas être nommé.
Si c'est le cas, vieux, c'est un beau compliment que tu me fais. C'est ce qu'on essaie de faire. Même le modeste Norvégien que je suis. Oui, on essaye.
Mais Julie, votre héroïne, qui pourtant écrit, elle revendique le droit de ne pas savoir tout nommer ou analyser, de s'accorder le temps nécessaire pour ressentir avant de verbaliser. En quoi le silence, c'est quelque chose de profondément nécessaire, Joachim Trier, particulièrement aujourd'hui ?
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui remplissent la vie des gens, j'ai le sentiment en tout cas, des choses qui prennent notre temps, des trucs à regarder. On regarde notre téléphone 3 heures par jour, c'est grotesque. Il faut d'autres choses pour nous nourrir. Des moments où on pense à des choses abstraites et à prendre du recul sur notre destin. Il nous faut du temps contemplatif pour nous. Donc oui, j'aime l'écran du cinéma, je veux que les gens viennent, mais j'espère aussi faire un espace contemplatif dans le film, qui n'est pas qu'une suite d'informations. Et en même temps, je suis vraiment un gros connard, j'arrête pas. Je cause tout le temps. J'aime la conversation avec toi. Donc, je suis ambivalent. Avec le temps, bon, j'ai 40 ans maintenant, j'essaye d'être plus présent dans le silence. Mais c'est dur pour moi. Et pour Julie aussi. Et c'est ça, c'est dans le film.
Mais ça donne peut-être l'une des plus belles scènes de votre film, Joachim Trier, cette scène où Julie, après l'annonce d'une nouvelle tragique, va arpenter la ville d'Oslo jusqu'au lever du jour. Et ma question, elle est très simple. Comment on met en scène le silence ?
Par l'espace, la lumière. Mais, sincèrement, le film parle aussi du deuil, du silence, du vide en soi, qui sont nécessaires pour trouver un espace à soi. Non, pardon, j'ai l'air d'être un hippie là, mais c'est plus dur qu'on croit, cependant. Le cheminement de Julie, c'est vers s'accepter dans la solitude. Et le silence, dans le silence, on est soi-même. Et nous, on évite d'être dans le silence. C'est le sujet du film. Une femme qui accepte d'être seule avec elle-même sans éprouver de solitude.
Merci tellement d'être un vieux hippie, Joachim Trier.
J'étais punk et me voilà hippie. Qu'est-ce qui se passe?
Il y a 30 ans et 40 ans, on va pas entrer là-dedans, parce que merci à votre interprète aussi, le tout-terrain Harold Manning. Je rappelle que Julie, en 12 chapitres, avec les incroyables Anders Danielsen Lee, Herbert Nord Room et Renate Reinsve, prix d'interprétation féminine à Cannes, est actuellement au cinéma. C'est un film France Inter. Pour ceux qui n'auraient pas encore passé le cap d'un retour aux salles obscures, c'est le moment. C'est le moment d'y aller, je vous le promets. Merci à vous et merci à toute l'équipe de Boomerang, Lola Costantini, Perrine Malinge, Léonard Biot, Pierre Démé, Jérôme Humbert et Jean-Baptiste Audibert. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes aux vestiaires. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Brosser, brosser, si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession
Et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Santé, c'est le retour de Stromae et l'album, je le rappelle, sortira cet hiver, début 2022, 9h40 sur
Moi,
France Inter.
Contente.
À l'instant M, Sonia De Villers, je vous entends.
Oui, je suis contente.
Santé, que Sonia.
Ouais, que Stromae revienne, je suis très contente.
On se réjouit tous.
Bienvenue à toi, Stromae, et salut Augustin, on se retrouve
salut,
lundi.
Salut Sonia, lundi.
Ciao.